sur les variations du niveau marin au cours des temps géologiques. Hein, j'insiste sur le « au cours des temps géologiques ». Donc nous nous affranchirons dans un premier temps, au moins au travers des exposés, et pas forcément des questions à venir, des variations à l'échelle des variations du niveau marin à l'échelle des temps quaternaires ou encore à l'échelle humaine, c'est-à-dire sur les 100 dernières années. Donc ceci est un exposé délibérément sur les variations du niveau marin au cours des temps géologiques, c'est-à-dire à l'échelle du million d'années et plus. Voilà. Donc je vais commencer par une approche empirique et classique, ou encore que nous montrent les roches. Donc j'ai pris un exemple qu'on pourrait qualifier de trivial ou de régional, hein, qui montre une colonne stratigraphique, donc issue de la région lyonnaise, hein, qui montre du bas vers le haut, au-dessus d'assises permo-carbonifères ou d'assises ou de roches ignées, granitiques et granognésiques, des assises du Trias surmontées par des assises du Jurassique. Donc classiquement, le Trias à la base montre des faciès fluviatiles avec des remplissages de chenaux ou encore des paléosols que vous avez du mal à distinguer ici, mais vous pouvez me croire, surmontés par des environnements de type marginaux littoraux au Trias, sommaire, et puis au début du Lias pour l'étage étangien. Donc se mettent en place ici dans le bas Beaujolais des faciès qui sont caractérisés par l'abondance de chlamys, voire de certaines ammonites, donc des calcaires bioclastiques, également des calcaires de type olitique, donc des calcaires à cachet marin, donc qui témoignent d'une transgression marine des assises du Jurassique sur les faciès marginaux littoraux du Trias et sur les socles du permo-carbonifère au sens large. Ensuite, vers le haut, cette série se développe en assez bonne continuité stratigraphique et les environnements marins restent durablement. Hein. Ici, on a un autre exemple pris dans les calcaires dits des monts d'or ou les calcaires jaunes ou les calcaires anthroques avec des faciès et des environnements de type tido, de type marais, donc attestant encore de l'installation de la mer. Donc vous voyez l'échelle de temps considérée, hein, 230 millions d'années pour le début du Trias, grosso modo 200 millions d'années pour le début de la transgression de l'étangien, et donc le maintien d'un système marin au moins sur 30 millions d'années jusqu'à ce que la colonne s'arrête. Ça ne veut pas dire que l'environnement marin s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est un cycle. Enfin, c'est la moitié d'un cycle de transgression, donc sur plusieurs dizaines de millions d'années. Donc c'est ce qu'on qualifiera de second ordre dans la hiérarchie des variations du niveau de la mer. Autre témoignage des roches, sans jeu de mots apparent, puisqu'il s'agit ici de la roche de Vergisson dans le Mâconnais. Donc pour vous montrer qu'à une plus forte résolution, c'est-à-dire à une plus petite échelle d'investigation, il existe des cycles de variation du niveau de la mer, donc qui vont concerner des assises sur quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Donc on voit par exemple dans cette première barre calcaire des environnements de type tido, hein, qui caractérisent des environnements proximaux marins. Et puis dans cette partie, entre les deux barres calcaires, dans cette partie récessive, c'est là où on trouve des marnes d'offshore, associées par exemple à des ammonites, donc à des fossiles d'environnements plus distaux et profonds, d'accord, qui sont ensuite, donc qui témoignent d'une transgression marine relative, et qui sont ensuite surmontées par des faciès dominés par les tempêtes. Hein, vous voyez dans l'encart supérieur, une gouttière d'érosion associée à une tempête, et également par des coraux qui se disposent dans la partie supérieure. Donc nous avons un cycle, on peut résumer ceci, voilà, je vais faire un écran noir pour que pour que ce soit apparent. Donc voici la colonne stratigraphique synthétisée et graphisée en quelque sorte. Donc sous cette forme où ce premier ensemble correspond à la barre inférieure, hein, avec des environnements tidaux que nous avons vus ici. Ici, l'ennoyage relatif avec la présence des ammonites, hein, qui permettent de dater d'ailleurs ces couches, hein, de la limite alénien-bajocien, peu importe. Et puis, un demi-cycle de régression avec l'installation des faciès littoraux dominés par les tempêtes et des coraux. Donc nous avons à cet ordre, hein, vous voyez que cette fois-ci, il s'agit de quelques millions d'années, et non plus quelques dizaines de millions d'années, nous avons des cycles d'ordre 3 dans la hiérarchie, c'est-à-dire entre 0, 5 et 3 millions d'années de durée, des cycles de chute et de montée du niveau marin relatif. Alors, normalement, je récupère ça. Alors, ceci étaient les faits que nous enseignent les concepts ou l'approche rationnelle. Alors, qu'est-ce que le niveau marin, tout d'abord? Donc, il existe deux niveaux marins. Hein, c'est fondamental de bien saisir la nuance, hein, sera d'importance pour la suite. Un niveau absolu, c'est-à-dire un niveau qui est calé avec une référence extraterrestre ou une étoile, ou qui peut être calé au centre de la Terre. D'accord. Et puis un niveau relatif, c'est-à-dire qui correspond à la hauteur d'eau par rapport à un point d'ancrage dans le substratum, par exemple. D'accord. Et puis la troisième notion, c'est celle de la profondeur d'eau, qui est la distance entre le toit de la colonne d'eau et puis la base de la colonne d'eau, c'est-à-dire l'interface sédiment-eau. Alors, ce que nous voyons à Solutré ou dans les roches, c'est une variation, ce sont des variations du niveau marin relatif. D'accord ? Donc, on constate des transgressions ou des régressions à l'échelle locale. Alors, toujours pour la nomenclature, il est un terme également important à connaître, c'est celui d'accommodation. L'accommodation, c'est un barbarisme absolument terrible, hein, qui vient du verbe anglais « accommoder ». D'accord, c'est pour ça qu'on l'écrit avec deux M, et qui, en fait, correspond à l'espace qui est créé pour permettant l'accumulation de sédiments. C'est-à-dire, c'est un espace potentiel libéré pour accommoder ou accumuler des sédiments. Alors, cet espace, donc, ça va être une hauteur créée, hauteur, donc, entre le substratum et puis l'interface au R. D'accord ? Donc, cet espace potentiel est rempli complètement, partiellement ou pas du tout. Sachant que l'espace résiduel non rempli et lui donne la profondeur d'eau donc qui reste résiduelle. D'accord ? Donc ici, vous avez sur ce schéma indiqué deux situations qui vous montrent une accommodation identique. Ce sont les colonnes orange, mais un espace disponible résiduel ou une profondeur d'eau de dépôt différente. Différence qui provient du remplissage différent qui entre ces deux points au cours du temps. D'accord. Si vous avez des questions, interrompez-moi tout de suite. C'est pas un problème. Ensuite, le dernier concept, c'est celui qu'un empilement vertical de faciès de dépôt. D'accord. Alors cet empilement est organisé, hein, les dépôts s'enchaînent selon un rythme précis. Cet enchaînement, on appelle ça une séquence. Que cette séquence, en une dimension que l'on peut voir dans les Monts d'Or lyonnais ou à la roche de Solutré, correspond en volume un corps sédimentaire en trois dimensions, une séquence de dépôt, et que cet enregistrement, cette séquence sédimentaire est le reflet, comme on a pu le voir à Solutré, est le reflet d'une variation, d'un cycle de variation du niveau de la mer, un cycle de variation relative du niveau de la mer. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut passer de ce fait à ce fait, et ensuite comment on peut passer d'une variation du niveau relatif de la mer à une variation du niveau absolu de la mer éventuellement. Voilà, donc c'est l'architecture stratigraphique qui témoigne des variations du niveau marin. Et on peut effectuer ce transfert depuis, ou ce retour, ou cette méthode inverse, depuis l'architecture stratigraphique jusqu'aux variations du niveau marin, au travers donc de trois types de documents. Les images sismiques, dont on parlera longuement, puisque c'est l'apport initial et historique de cette méthode aux variations, aux reconstitutions des variations du niveau marin relatif. Ensuite, aux affleurements panoramiques, aux affleurements de terrain. Et puis, à une méthode qui est peut-être plus intime ou plus discrète, puisqu'elle est utilisée surtout dans les compagnies industrielles, qui consiste à reconstruire des images, des architectures stratigraphiques par des corrélations stratigraphiques, et en particulier des corrélations diagraphiques qui sont utilisées dans les forages. Alors, première image, c'est celle classique d'un profil sismique, de sismique réflexion. Alors, que montre qu'est-ce qu'il y a derrière, comment c'est construit, et que nous enseigne ce type de profil. Alors, un profil sismique est une coupe dans la croûte continentale, en général dans la partie superficielle. D'accord ? Alors, selon la fréquence et la puissance des ondes que l'on envoie dans le sous-sol, la résolution est plus ou moins grande et la pénétration en profondeur est plus ou moins grande, sachant que résolution et pénétration sont antinomiques. Alors, que montre, donc il s'agit d'une coupe, mais d'une coupe en temps. C'est pas une réalité géologique, c'est une réalité virtuelle, hein, puisque les unités qui sont affichées en ordonnée sont des millisecondes ou des secondes, et en général des temps doubles, c'est-à-dire qui témoignent de la phase aller et retour des ondes qui sont réfléchies. D'accord ? Donc, il existe une procédure de conversion de cette coupe temps en coupe profondeur ou coupe géologique. On verra par la suite. Alors, qu'est-ce qui est enregistré sur un profil sismique ? Deux choses. Une chose qui n'est pas apparente graphiquement, c'est la vitesse des ondes sismiques, qui sont des ondes acoustiques premières, d'accord ? Donc la vitesse absolue, hein, qui, je vous le rappelle, dans les roches sédimentaires, varie entre 2 km secondes pour les sédiments restants très peu indurés, jusqu'à 6 km secondes pour les sédiments cimentés, compacts et enfouis. Donc un contraste assez conséquent. Donc, on a une information sur la vitesse qui n'apparaît pas ici. Ce qui apparaît graphiquement, c'est une superposition d'horizons noirs et d'horizons blancs. Les horizons noirs étant des déviations vers la droite, des déflexions vers la droite des ondelettes. Hein. Ces ondelettes, c'est très manifeste en quelque sorte, ou reflètent le chemin parcouru par les ondes acoustiques qui sont reflétées à partir du bas et qui remontent vers les capteurs vers le haut. Donc ces ondes sont déviées vers la droite sur les horizons noirs. Alors ces réflecteurs sismiques correspondent à des contrastes d'impédance acoustique. L'impédance acoustique étant une propriété physique des roches, qui est le produit de la densité des roches par la vitesse de propagation des ondes P dans ces roches. Bon, les densités varient faiblement, en revanche, les vitesses varient fortement. Donc, on peut ramener ou simplifier contraste d'impédance à contraste de vitesse acoustique. D'accord ? Donc là, quand on a une phase noire, il s'agit d'un contraste de forte à faible vitesse. D'accord ? Et en revanche, ces lignes noires sont séparées par des phases, par des lignes et des phases blanches, plus ou moins marquées, qui correspondent, elles, à des augmentations, à des contrastes vers des augmentations de vitesse. Voilà. Donc, c'est ce que montre un profil sismique. Alors, comment passe-t-on d'une information sismique, donc lithologique, a priori, puisque ça concerne des propriétés physiques, acoustiques des roches, à une information stratigraphique sur l'architecture des corps sédimentaires. C'est là où c'est un petit peu délicat. Donc ici, vous avez un profil brut, enfin qui est traité, qui est corrigé, mais donc qui est indiqué donc ici en temps double, en seconde. Et ce profil est converti pour la deuxième partie en une ligne de vitesse, enfin une coupe de vitesse sismique. Hein, les couleurs jaunes et chaudes reflétant des faibles vitesses sismiques, hein, de l'ordre de 3, 4, et les parties rouges reflétant des zones de forte à plus forte vitesse, de type 4 à 6. Donc, au premier ordre, et vu de très loin, on voit un contraste entre des zones jaunes, qui sont des zones argileuses, et des zones plus sombres, qui sont des zones graisseuses. Sachant que les argiles, c'est poreux, donc les vitesses de propagation sont très faibles à l'intérieur. D'accord ? Donc on peut tracer, hein, c'est ce qui a été fait dans la diapositive du bas, on peut tracer une limite lithologique entre argile et grès. D'accord ? Donc ça, c'est une information de premier ordre de type lithostratigraphique. En regardant de plus près, on voit ici, donc dans les parties, en particulier là où les vitesses sont suffisantes et où il apparaît des contrastes, on voit des réflecteurs pentés vers la droite, hein, qui descendent progressivement vers la droite et qui s'engagent plus ou moins dans les niveaux jaunes. Donc ici jusque-là, ici jusque-là, ici jusque-là. Et c'est donc c'est ce qu'on peut appeler des clinoformes, hein, ces formes pentées. Donc, montre la progradation, en fait, d'un ensemble graisseux vers un ensemble argileux avec un passage latéral de faciès, depuis des faciès graisseux jusqu'à des faciès argileux. Donc, c'est une image classique et simple, il en existe, d'un delta, par exemple, hein, dont la partie supérieure ou le front de delta est sableuse et qui passe en avant à un front de delta et un pied de delta qui est plus argileux. Donc, les lignes et les réflecteurs vont correspondre à des lignes temps qui vont matérialiser des anciens profils de dépôt, hein, sur lesquels passent latéralement les faciès depuis des environnements proximaux jusqu'à des environnements distaux. Hein, ce qui est important à comprendre, c'est qu'a priori chaque, imaginez-vous sur un système deltaïque qui prograde vers l'extérieur, hein, comme dans le delta de la Camargue, par exemple, et chaque modification environnementale au sens large, c'est-à-dire chaque modification paléogéographique, modification des conditions générales de la sédimentation, va se répercuter dans tous les environnements, hein, depuis le haut du delta sur le front jusqu'au pied, dans un changement de lithologie. D'accord ? On aura une répercussion à l'échelle de tout l'environnement. Donc cette répercussion va se traduire plus ou moins par un changement dans les propriétés, dans les vitesses de sédimentation, dans la nature de la sédimentation. Et ce changement va être plus ou moins fort selon les environnements dans lesquels vous vous situez. D'accord ? Quand vous êtes au large, dans les environnements argileux, le contraste sera faible. En revanche, si vous êtes dans l'environnement deltaïque, si vous faites monter le niveau de la mer, si vous augmentez le flux sédimentaire, là, les changements lithologiques seront majeurs. D'accord ? Toujours est-il qu'à chaque changement extérieur qui concerne l'extérieur extrinsèque au système, ça se répercute à l'échelle de tout le système, de manière plus ou moins contrastée. Et c'est ce changement qui se traduit dans la différenciation d'un réflecteur. D'accord ? Et comme ce changement est plus ou moins contrasté, le réflecteur est plus ou moins enregistré également. Hein, ici, la réflexion est très faible. En revanche, quand vous allez dans la partie sommitale et en amont du delta, là, le changement va être beaucoup plus conséquent parce que vous pouvez passer localement d'un chenal à des faciès de débordement, donc de grès à des argiles, donc avoir un contraste des lithologies majeur. Entendu ? Donc, c'est ce qui est représenté dans la dernière cartouche, c'est que ces variations de vitesse, hein, que l'on voit au travers des réflecteurs correspondent à des variations de faciès et que ces réflecteurs correspondent à des lignes temps. Donc les lignes temps traversent les lignes qui séparent les lithologies dominantes. D'accord ? Et donc qui dit ligne temps dit ligne stratigraphique. Entendu ? Donc cette partie est cruciale. Donc si elle est claire, je poursuis. Si vous avez une question, pendant que nous sommes sur la diapo, je fais une pause. Parce que c'est ce concept qui, dans les années 75, c'est ce qu'on appelle la stratigraphie sismique. Hein, c'est ce concept qui a engendré la révolution de la stratigraphie sismique, donc de la stratigraphie séquentielle et des reconstructions des variations du niveau de la mer. Hein. Ça, la stratigraphie sismique, ça a été développée dans les années effectivement 70-80, avec l'émergence en 1977, puis dans les années 80, donc de la théorie alors qui est connue sous le nom de celle du groupe d'Exxon ou de Peter Weil ou de Ardenbol, enfin il y a un certain nombre de gens, ou de Mitchum, qui ont travaillé, tous ces gens faisant partie du groupe de recherche de stratigraphie sismique du groupe Exxon ou ESO. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, oui, je vous en prie.
Pourquoi la stratigraphie sismique révolutionne ? Parce que on peut voir beaucoup plus de terrain, évidemment, on peut voir partout, et sinon ça, on voit qu'on a une coupe. Quand on a une coupe visible, cette analyse on peut la faire. Donc ça augmente la quantité d'observation, mais pas la...
ça augmente surtout l'échelle d'observation, puisque on n'a pas les échelles horizontales et verticales, mais ceci concerne des sections qui sont de plusieurs dizaines de kilomètres, voire dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres longues. D'accord. Tandis qu'on verra tout à l'heure, au travers des observations panoramiques, que les affleurements dont on peut disposer sont limités en extension. D'accord. Donc on verra l'échelle justement sur un profil sismique. Hein, à l'affleurement, on pourra avoir une toute petite fenêtre. Mais le principe est le même. Mais c'est l'image de la stratigraphie sismique qui a conduit à réexaminer et à réinterpréter les images de terrain. D'accord. Je pourrais vous montrer un exemple, hein, dans le Vercors, si vous connaissez le site de la Montagnette, oui, qui montre une très très belle progradation, hein, cette échelle. Historiquement, il était interprété comme un récif. D'accord. Donc pas du tout comme une variation latérale des faciès et comme une progradation de l'ensemble de la marge. D'accord. Donc ce zoom arrière a permis de réinvestiguer et de réintégrer toutes les observations locales et ponctuelles qu'on peut faire sur les couches. Il y avait une autre question.
Moi, je ne comprends pas bien pourquoi les lignes de temps sont inclinées. C'est le temps géologique.
C'est le temps géologique, oui. Bien, si vous allez dans le delta du Rhône, Et si vous tracez un profil bathymétrique depuis l'embouchure jusqu'à la plaine du Méditerranée, vous avez une pente sédimentaire. Et dans les deltas térigènes ou silicoclastiques, hein, que ce soit le Rhône, le Mississippi, ces pentes ont de manière caractéristique une valeur comprise entre 3 et 5 degrés. D'accord ? C'est dû à la texture du matériel qui est concerné, les argiles. Et là, en mesurant, on trouvera des angles similaires. D'accord ? Donc ça, ce sont les paléopentes au front de delta qui sont préservées.
Donc ça a été surajouté aux données lithologiques, enfin aux données, cette information supplémentaire, de la pente.
La pente dérive du calcul de la pente du réflecteur.
D'accord.
Parce que le réflecteur marque le paléoprofil de dépôt. D'accord. C'est un instant T, vous avez un profil de dépôt qui est enregistré et préservé. D'accord. Alors un instant T, il est ici. À l'instant T plus 1, le delta a progradé. Donc le faciès sableux a avancé sur le faciès argileux. Et le profil est, en quelque sorte, reporté en avant, sans modification apparente de géométrie. D'accord. Et comme ça, au cours du temps, le profil similaire à lui-même avance, comme le delta avance sur le domaine marin. Donc vous voyez que ce profil-là va être préservé jusqu'ici. Et ici, il y a quelque chose qui change. On retrouve des réflecteurs, enfin des niveaux argileux. Donc il y a certainement une réinondation générale de la région. Encore une question ? Je vous en prie.
Le triangle blanc, c'est une absence
de... Oui, c'est une absence de traitement. Voilà. Alors, ceci est un profil sismique enregistré sur la marge occidentale donc de l'Atlantique central, sur une marge continentale passive classique, sur le nord-est américain, au large du Nouveau Jersey. Donc voilà, le profil qui concerne donc, il n'y a pas d'échelle, mais qui est long à peu près de 200 km. C'est-à-dire que c'est un profil à l'échelle de la marge continentale. Voilà, donc ici nous avons, je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, c'est l'âge absolu qui a été reporté ultérieurement sur les couches, 25 millions d'années d'âge, donc c'est à peu près le Miocène. D'accord. Et ceci est enfoui à peu près à une profondeur déjà de 2 à 3 km. Alors, donc on a sur cette image un certain nombre, vous voyez apparaître un certain nombre de réflecteurs. Donc la stratigraphie sismique consiste à, le travail analytique de stratigraphie sismique consiste à suivre ces réflecteurs, d'accord, physiquement. Alors on choisit, bon, je vais en prendre un qui n'a pas été surajouté, hein, on en suit un comme ça. Voilà, il est continu a priori. Et puis là, il s'efface. D'accord. On en a un autre au-dessus qui se poursuit à droite et qui là est interrompu. D'accord. Et qui a priori est recoupé par un réflecteur ici qui était surligné. Voilà, donc ça c'est le travail. Donc de proche en proche, on surligne en quelque sorte le tracé, le chemin de tous ces réflecteurs, pour aboutir à ce schéma interprété d'ensemble, où vous voyez un certain nombre de faits. Hein. Vous avez un premier ensemble ici qui montre des réflecteurs empilés plus ou moins horizontalement et régulièrement. Et puis ensuite, cet ensemble de réflecteurs est tronqué par une surface qui ici est en conformité géométrique avec les strates sous-jacentes, mais qui, lorsque vous allez à l'extérieur, alors il ne faut pas que je la perde, elle est ici. Ici, elle est en conformité, et quand vous arrivez sur le bord du talus, quelque sorte, elle plonge en tronquant, en érodant les strates sous-jacentes, d'accord. Et ensuite, on peut la suivre ici. Et corrélativement, vous avez un ensemble qui est d'ailleurs assez homogène, qui est un biseau, qui est restreint, dont l'emplacement est restreint dans la partie externe, dans le trou. Et vous voyez, ce biseau, lui, a tendance ensuite simplement à remonter sur la plateforme. Là, vous avez à nouveau un empilement conforme, et puis ici, un autre prisme, une autre surface qui est le même tronc, avec un prisme localisé dans les parties distales et profondes, et etc. D'accord ? Donc, vous avez au final un schéma qui vous montre qu'à certains endroits, hein, les couches sont en conformité et un empilement apparent, et à d'autres endroits, en particulier dans ce secteur, vous avez un certain nombre de troncatures sédimentaires et un certain nombre de recouvrements sédimentaires. Vous voyez qu'ici, au même niveau altimétrique, vous avez coexistent latéralement des roches anciennes avec des roches beaucoup plus récentes, et que l'âge de ces roches ici est le même que l'âge de ces roches là-haut. D'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, le principe de superposition, en quelque sorte, est sérieusement mis à mal. Hein? Il est valable pour certains secteurs, mais n'est pas valable à l'échelle de la marge continentale. D'accord? Donc, en reconstruisant ces lignes, on a une architecture et un motif stratigraphique, hein, de l'organisation des strates dans l'espace et sur un profil deux dimensions. Alors, ça, c'est le premier travail, celui de surligner et de suivre les réflecteurs, donc de mettre en évidence leur discontinuité. Le second travail consiste à observer les relations géométriques qu'il existe entre les réflecteurs qui composent les paquets et puis les surfaces remarquables qui délimitent des ensembles à géométrie conforme. D'accord. Alors, par exemple, c'est ce qu'indique ici, avec des bons yeux, les flèches. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de flèches tout au long, hein, qui ponctuent ce diagramme. Alors, que veut dire, par exemple, ce type de flèche? Ça veut dire que le réflecteur qui vient ici vient buter, en quelque sorte, sur la surface d'érosion sous-jacente. Hein? On appelle ceci une relation, vous avez certainement entendu parler de ça, ON-LAP, O-N-L-A-P. Hein? LAP, ça veut dire recouvrir, ON, dessus, donc ça recouvre la strate, le réflecteur vient recouvrir la surface d'érosion. En français, on appelle ça un biseau d'aggradation. Aggradation se référant au fait que les couches s'empilent verticalement. Donc, si elles s'empilent verticalement, hein, vous avez une cuvette, elles s'empilent verticalement, donc elles remontent en quelque sorte sur les bordures, hein, de manière passive en quelque sorte. Donc, ça, c'est un premier type de relation, donc, qui est associé à ce prisme qui est localisé dans la partie distale et basse de la marge, dans le trou. C'est ce qu'on appelle un prisme de bas niveau marin relatif. D'accord ? Ensuite, vous avez d'autres relations. Là, vous avez d'autres relations d'ONLAP similaires. Et vous avez d'autres relations d'ONLAP qui sont ici, en particulier. D'accord ? Donc là, qui montrent le recouvrement des strates sur le plateau continental. Strates qui remontent progressivement, littoraux qui remontent progressivement vers la partie amont de la marge continentale lorsque le niveau marin relatif remonte. D'accord. Alors ensuite, après cette remontée, la ligne en pointillé marque une ligne qui est continue à l'échelle de tout le transect et qui marque l'inondation de toute la marge sous des faciès sous l'eau et sous des faciès marins. D'accord. C'est pour ça qu'elle a une continuité jusque dans les parties gauches. Et puis, dans la partie sommitale, vous voyez des flèches, cette fois-ci, des strates qui descendent et qui viennent se pincer et se fusionner avec cette ligne en pointillé. Donc, ces flèches dirigées vers le bas sont des relations stratigraphiques que l'on appelle des down-lap. Donc, lap vers le recouvrir et down vers le bas, ou encore des prismes, des biseaux de progradation. Est-ce que je peux vous les montrer? Donc, que traduisent ces géométries? On a abordé un petit peu. Et ces géométries et ces relations, donc ces relations géométriques stratigraphiques. Elles traduisent l'allée et venue des dépôts entre la partie amont et la partie aval de la marge continentale. D'accord ? Ici, dans cette première phase, la sédimentation était homogène sur une marge continentale qui devait avoir un profil général de rampe, c'est-à-dire une rampe homoclinale, un plan légèrement incliné depuis le littoral jusque dans les parties distales, hein, avec un très très faible angle. Et puis ici, donc le premier événement spectaculaire et remarquable, c'est la chute du niveau marin qui a provoqué, hein, dont on peut calculer d'ailleurs l'amplitude, qui a provoqué donc le recul des dépôts qui étaient jusqu'alors sur la plateforme dans le bassin, dans le trou. Quand il n'y a plus de place sur la plateforme, les dépôts s'effectuent là où il reste la place, c'est-à-dire dans la partie distale et dans la partie profonde. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ceci un prisme de bas niveau, d'accord ? Qui est ben, similaire à celui-ci, c'est le même type. Ensuite, lors de la remontée du niveau marin, les faciès littoraux rétrograde et ré-onlap en quelque sorte sur l'ancienne plateforme, d'accord, pour inonder et développer donc une nouvelle sédimentation sur la plateforme. Alors, qui dit sédimentation sur la plateforme dit corrélativement, vous voyez dans ce cas-là, l'épaisseur sur la plateforme est à peu près, et même l'épaisseur est similaire, voire plus forte que l'épaisseur dans le bassin, parce que tout le matériel qui se dépose sur la plateforme n'est plus disponible pour aller jusque dans le bassin. D'accord ? Donc le matériel sédimentaire qui est apporté en tête de la marge est stocké sur la plateforme et ne va plus, ne transite plus jusqu'au bassin. D'accord ? Donc entre les phases de bas niveau et les phases de haut niveau, le matériel est sédimenté alternativement dans les parties profondes et distales et dans les parties superficielles et proximales. D'accord. Hein, c'est ça, en obéissant au premier ordre à une loi simple qui est celle de la conservation des masses. D'accord. Vous avez au départ un flux, un stock qui est disponible, et votre stock, si vous êtes en bas niveau marin relatif, vous le déposez dans les profondeurs, et si vous êtes en haut niveau marin, avec un niveau d'eau qui a envahi les plateformes, vous le déposez dans les zones proximales. D'accord. Et c'est cette balance alternative qui conduit au déplacement des dépôts, hein, depuis la plateforme jusqu'au bassin, retour à la plateforme, retour au bassin, etc. Et c'est ce va-et-vient qui permet donc de reconstruire les variations du niveau marin relatif, hein, toujours à l'échelle de la marge, cette fois-ci, pendant un certain nombre de millions d'années. Donc à partir de l'observation répétée de ce type de profil, les gens d'Exxon ont défini une séquence idéale, en quelque sorte, un modèle, qui est illustré en particulier, qu'ils ont appelé une séquence de dépôt, hein, qui est illustrée par ce prisme-là, surligné en rouge. D'accord. Alors, je vous ai donné la définition originale, hein. Donc, la séquence de dépôt, elle correspond à donc, un ensemble de un paquet sédimentaire qui est limité à un volume de sédiments, de roches, de strates, qui est limité à sa base et à son toit par deux limites de séquence qui correspondent, dans la nomenclature des gens d'Exxon, qui correspondent à des phases d'émersion, c'est-à-dire à des phases de bas niveau marin relatif. D'accord ? Hein, c'est la définition de la limite de séquence d'Exxon. Donc, normalement, une limite de séquence sur la plateforme va se traduire par une mise à l'air libre et le développement de paléosols, de fossiles continentaux, de chenaux fluviatiles, etc. Hein, ça, ce sera la trace directe de la limite de séquence sur la plateforme. Bon, vous concevez bien que pour les gens de l'industrie pétrolière, ce type de modèle avait son importance dans la mesure où il permettait, à partir d'un forage qui détectait la présence de paléosols, il permettait de prédire l'existence, hein, latéralement, associée par exemple à cette surface, d'un prisme de bas niveau, hein, prisme de bas niveau qui peut être constitué, qui est souvent constitué de dépôts turbidlitiques sableux, qui sont d'excellents réservoirs à hydrocarbures et qui font la richesse actuelle d'un certain nombre de compagnies au large de l'Afrique sur l'offshore profond, par exemple. D'accord. Alors, cette séquence idéale, elle est composée d'un certain nombre d'éléments que nous allons détailler, si vous le voulez bien. Je vais arrêter ça. Que ce soit clair. Hein? Ouais, il faudrait. Voilà. Est-ce que ça reste accessible pour vous? Donc voilà l'état du profil au moment de la limite de séquence. D'accord. Donc quand nous sommes dans la partie littorale, hein, ici ou ici. D'accord. Donc le niveau de la mer est bas. Il a passé le bord du talus continental. D'accord. Donc, sur le plateau, vous avez des incisions, des faciès continentaux qui se développent éventuellement. Ce qui est symbolisé en noir ici, c'est la position du littoral, comme on dit. D'accord. Et les dépôts sont restreints ici, symbolisés sous la forme des ailes de mouette, des fameuses ailes de mouette, qui sont des dépôts sableux turbidlitiques dans les parties profondes. D'accord. Donc ici, aucun dépôt. Ici, les dépôts dans le bas niveau. Ensuite, le niveau de la mer remonte, hein, ce qui est matérialisé par la flèche. Et donc, les niveaux, vous avez un remplissage donc, qui se déplace légèrement vers la tête du talus, d'accord, avec donc, la réinstallation de dépôts littoraux et des figures donc, d'aggradation côtière, hein, des figures Dunlap ici, et puis des figures de Dunlap conjointement dans la partie distale. D'accord. Donc ça, c'était le premier prisme, et ça, c'est le second prisme qui, globalement, se décale vers la partie amont, au fur et à mesure que monte le niveau de la mer. Je vais baisser. Voilà, donc troisième phase, qui est celle du cortège du CT, hein, du cortège transgressif, proprement dit, donc qui marque, cette fois-ci, hein, le passage, le niveau de l'eau franchit la bordure du talus continental et remonte sur la plateforme. Hein. Donc, la remontée progressive se traduit par le déplacement vers la partie amont du littoral et associé ici des figures d'aggradation côtière. Hein. Les dépôts de plaine côtière remontent en quelque sorte sur l'ancienne surface d'érosion pour atteindre ici un maximum. Voilà. On va le baisser. Donc le maximum est traduit par cette surface en pointillé, hein, qui est une surface donc d'avancée maximale du niveau marin sur la plaine côtière, d'accord. Et puisque tout le sédiment est stocké dans les parties proximales, il devient indisponible en quelque sorte pour les parties distales. Donc dans les affleurements et dans les sections distales, la vitesse de sédimentation est réduite, les fossiles s'accumulent, des minéraux comme la glauconie se différencient. Donc nous on engendre ce qu'on appelle des niveaux condensés. D'accord, avec des faibles vitesses de sédimentation. Faible vitesse de sédimentation, donc qui marque le maximum d'inondation sur la plateforme et le stockage de tous les produits terrigènes dans les parties amont du profil de dépôt. D'accord. Donc, les marqueurs biostratigraphiques dans les sections marines, ils sont localisés sur cette ligne en pointillé. D'accord. C'est également, en général, la zone d'accumulation de roches riches en matière organique, ou en phosphate, en glauconie, etc. D'accord. Et puis, suivant ce maximum, vous avez bien sûr la phase de remplissage, qui est appelée prisme de haut niveau, et qui marque donc à nouveau la progradation du littoral vers l'extérieur, hein, puisque l'espace étant comblé, le sédiment a tendance à nouveau à migrer vers l'extérieur. D'accord. Et vous voyez, à nouveau, donc, prograde vers l'extérieur le littoral. Hein, et c'est ce type de figure qui correspondait au type de au schéma de stratigraphie sismique que l'on voyait sur les diapos précédentes. Voilà. Donc, à partir de ça, à partir de ces séquences, on est capable donc de reconstruire une variation du niveau marin relatif, variation qui cette fois-ci n'est plus construite sur une dimension, mais déjà sur un profil de dimension, une coupe à l'échelle. Vous voyez, il n'y a pas d'échelle d'espace. Hein. Ce type d'architecture et de profil pouvant aller de la dizaine de kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres. D'accord. Oui.
Oui, le fait que ça reparte à la fin sur la droite, hein, le niveau noir, là, vous l'avez indiqué comme le fait que le bassin se comblait.
Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi expliquer par le fait que le niveau marin, au nouveau, rebaisse
de alors,
le niveau marin absolu.
C'est une alternative au modèle. Soit il y a un comblement, on peut imaginer un niveau stagnant, quelque
oui,
sorte,
oui, oui.
qui est avec un comblement passif, ou soit effectivement un scénario plus actif, où sont combinés une baisse du niveau marin et puis un remplissage.
Et on peut pas a priori, on ne peut pas trancher entre les à partir de ces documents.
Si vous allez non, simplement avec cette géométrie non.
Non.
Non. Puisque les on verra par la suite qu'il est difficile de différencier, de distinguer la part du flux sédimentaire de la part de la chute du niveau marin.
D'accord.
Puisque cette zone-là, ce littoral, hein, c'est un équilibre entre l'espace que vous créez et puis la quantité de matière que vous apportez. Si vous apportez plus de matière que vous créez d'espace, le littoral va progarder vers l'extérieur. D'accord. Au contraire, hein, si vous créez plus d'espace que vous n'apportez de matière, il y aura une rétrogradation. Voilà, donc ça, c'est la séquence. Je vais éteindre ça. Bon, je vais vite revenir dessus. Voilà, donc c'est là. C'était pour vous rappeler la séquence idéale exonienne, avec tous les termes qui sont utilisés, hein, les limites de séquence, hein, qui correspondent à des qui marquent des troncatures. Voilà. Les prismes de bas niveau avec des zones lapes sur les bords de la cuvette et les prismes de transgression avec des zones lapes sur les parties proximales. La surface condensée qui, elle, voit des prismes de des biseaux de progradation en dents de lape progradées au-dessus. D'accord. Et puis, vers le haut, vous rencontrerez ce qu'on peut appeler des toplaps, qui sont des biseaux sommitaux. Hein, vous voyez les couches qui ont tendance à aller se pincer et se mettre en conformité là-haut, hein, parce que vous comprenez intuitivement qu'en réduisant l'espace disponible, les couches ont tendance à s'épaissir quand on va vers l'extérieur. D'accord. Alors, théoriquement, on distingue bien les toplaps, qui sont des biseaux sommitaux, hein, qui sont associés, qui sont des réductions d'épaisseur au moment du dépôt, d'accord. Des surfaces de troncature, qui, elles, sont des surfaces d'érosion post-dépôt, d'accord. Donc voilà ce qu'on appelle le stratal termination pattern, hein, les motifs de troncature stratigraphique. En français. Alors, donc ceci a conduit à ce fameux modèle d'Exon qu'on appelle un peu péjorativement désormais la limace d'Exon, hein, puisque vous voyez que c'est voilà. On verra pourquoi ça peut être péjoratif. Donc où sont distingués par des couleurs, hein, les prismes de bas niveau, les cortèges transgressifs et les prismes de haut niveau. En gris. Alors, fondamentalement, il existe deux types de limites de séquences. Les séquences de type 1, qui correspondent à un niveau marin qui passe sous la bordure de la plateforme, d'accord, donc qui entraîne des érosions sur la plateforme, Et puis les limites de séquence de type 2, où le niveau marin ne franchit pas la bordure de la plateforme, mais reste dans sa partie extérieure, et qui ne sont pas associées à des érosions majeures. Bon, ça c'est une variété ou une pédanterie, diraient certains, mais tel est le cas. D'accord. Donc à partir de ce type de motif, on reconstruit, vous voyez, ici c'est le bas niveau marin, ici c'est le haut, donc en couleur, les bas niveaux, le cortège transgressif, le maximum d'inondation et le prisme de bas niveau. Donc entre 1 et 2 est définie une séquence de dépôt. Alors c'est à partir de l'observation répétée de ces profils sismiques que les gens d'Exode ont compilé et construit la fameuse courbe publiée dans sa forme complète pour la première fois dans les années en 88, donc qui montre le passage donc de l'enregistrement sismique. Vous voyez là-haut sont notés les changements du Costaland Lap. C'est-à-dire, ça reflète, quand vous allez sur la gauche, ça reflète la remontée des littoraux vers les parties amont. D'accord. Ici, c'est la chute, la limite de séquence, et on recommence. D'accord. Donc, à chaque chute est associé un bas niveau. Okay. Et puis, à chaque prisme de dégradation côtière est associé donc une remontée. Donc, voilà toutes les séquences qu'on a reconnues en sismique. Et là, on les a traduites en deux ordres de variation du niveau marin relatif. L'ordre élémentaire, celui-ci, qui est le troisième ordre, celui de la séquence de dépôt d'Exode, donc je vous le rappelle, entre 0,5 et 3 millions d'années. Et puis un deuxième ordre, simplement par lissage, en quelque sorte, des maxima de troisième ordre. Donc ça, c'est les plus grandes tendances. Entre, qui s'étale sur quelques dizaines de millions d'années. Donc, second ordre et troisième ordre. Donc, voilà la base et le mode de construction de cette fameuse courbe. C'est celle dont on dispose, celle-ci, ou une dérivée proche dans les manuels, de manière courante. Et on verra à la fin ce qui peut en rester et comment on peut l'utiliser et la manipuler. Alors, le troisième, le dernier élément, vous retrouvez cette courbe ici, avec ces deux ordres, c'était son calage dans le temps. C'était bien beau de reconnaître des maximums d'inondation, ou au contraire des régressions et des limites de séquence. Rester à les caler dans le temps, donc c'est ce qui a été fait de proche en proche, dans les forages, ou dans les affleurements qui étaient connectés à certains profils sismiques. Donc on a corrélé de proche en proche, et ça a requis à peu près une vingtaine d'années de travaux, les données biostratigraphiques, les données magnétostratigraphiques, et puis plus récemment les données chémostratigraphiques, en particulier avec la courbe de l'oxygène 18, bon, ceci étant un calage communément réalisé pour le quaternaire, mais que l'on descend progressivement au cénozoïque et même au mésozoïque. Donc, l'idée, ça c'était à la limite un document, le travail d'Exton était un travail très objectif et analytique. Là où il y a eu un premier, maintenant on peut parler de dérapage, après on verra pourquoi, c'est que dans leur tête, alors ça leur rendait certainement service, toutes ces phases de chute, ces limites de séquence, étaient associées à des chutes eustatiques, c'est-à-dire à des chutes du niveau marin absolu et à des chutes globales. D'accord. Pourquoi disaient-ils ça? Parce qu'ils avaient des profils sismiques dans un certain nombre de régions du globe. C'est le propre de l'exploration pétrolière, et qu'apparemment, ils retrouvaient toujours les mêmes types de limites de séquence dans quels que soient les environnements, etc. Le souci, c'est qu'ils n'ont jamais, ils ont publié des résultats, mais jamais la source de leurs données, en particulier de leur contrôle chronostratigraphique qu'ils avaient sur ces séquences. D'accord ? Donc là, c'est resté une source de discussion et de débat très longtemps. On verra également ce qu'il en reste désormais. Alors, ils ont poussé le bouchon très loin en disant, pour le calage chronostratigraphique, en disant, bah, puisque c'est global, il suffit de caler notre charte sur les stratotypes. D'accord ? Donc, ils ont réinvestigué tous les stratotypes, l'étangien d'étange, le toarcien de toar, etc., en essayant localement, ponctuellement, donc de reconstruire les variations du niveau marin, qui étaient des variations du niveau marin relatif, puisqu'elles étaient ponctuelles, mais ils leur ont donné d'emblée et a priori un caractère global, donc ce qui leur a permis de recaler biostratigraphiquement et magnétostratigraphiquement ces chartes. D'accord. Donc là, il y a eu un abus méthodologique flagrant, mais qui s'est réalisé quand même. Voilà, donc la deuxième phase, c'est celle des panoramas de terrain. Donc je vous ai vous montré un profil de sismique qui concerne la plateforme carbonatée du Crétacé inférieur en Louisiane, dans le golfe du Mexique. Donc vous voyez, c'est une partie du profil, hein, vous voyez la longueur montrée, 10 km. Hein. Donc on est sur une plateforme et la bordure externe de la plateforme est le passage au bassin. D'accord. Donc il existe une configuration paléogéographique similaire dans le Vercors, hein, dans le sud-est de la France, où vous avez, pour être simple, la plateforme urgonienne, hein, qui passe latéralement au faciès profond du bassin dit Vauconcien. D'accord. Donc ça, c'est vous travaillerez sur ce profil cet après-midi de manière plus précise. Le petit encart rouge, c'est à peu près la hauteur et la longueur que l'on est capable de voir d'observer à l'affleurement. Voilà, pour répondre à votre question de tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on change de dimension. D'accord ? Alors, ça a un intérêt aussi dans la mesure où on va avoir accès à une résolution, à une finesse auxquelles on n'a pas accès à l'échelle sismique. D'accord ? Ça permettra d'emboîter et de voir si l'organisation stratigraphique générale est en quelque sorte auto-similaire, c'est-à-dire est la même, quelles que soient les échelles d'espace considérées. Donc, on peut sauter, pas dans la ravine, mais dans le sud du plateau du Vercors, hein, dans la région de Châtillon-Andillois, plus précisément dans le cirque d'Archiane, pour ceux qui connaissent. Alors, ici, ce sont des vues, des photographies, donc qui sont remises en situation, recalées. Et donc, sur ces photographies, on voit un certain nombre de discontinuités. Hein, vous voyez, je vous le surligne, hein, des limites entre bancs qui sont pentées et qui progradent en quelque sorte vers la gauche. D'accord ? Donc, là aussi, hein, c'est un habillage, c'est un pointé, en quelque sorte, stratigraphique, dont vous avez l'interprétation en deçà. Donc, vous voyez un premier prisme progradant, hein, depuis la plateforme vers le bassin, avec des clinoformes, c'est-à-dire des pentes sédimentaires qui, dans les systèmes carbonatés, sont plus forts que dans les systèmes terrigènes et atteignent ici une quinzaine de degrés. D'accord. Donc, vous avez un premier prisme progradant et puis un deuxième prisme, vous voyez, dont la configuration, dont l'organisation est différente du premier. Hein, les strates sont plus épaisses. D'accord. Et là, vous avez en quelque sorte un paléolittoral qui est marqué par cet arrêt de surface qui prograde, hein, vous pouvez le suivre, il est ici, après il est ici, après il est ici, et ensuite il est ici. Et à partir d'ici, vous avez des géométries qui ne sont plus uniquement progradantes, mais qui sont agradantes et qui remontent en quelque sorte, qui sont agradantes, c'est-à-dire horizontales et plates, et qui remontent sur toute la plateforme. C'est les strates que l'on voit ici. Donc là aussi, vous pouvez décortiquer en quelque sorte l'architecture associée à une chute jusqu'ici et une remontée jusqu'ici du niveau marin relatif sur cette bordure de plateforme. D'accord. Donc on peut l'intérêt des panoramas est de deux sortes. Un, c'est que vous avez un accès à l'architecture assez fine de ces prismes. Donc, vous pouvez exactement reconstituer et vous servir de ces modèles de terrain comme des analogues pour la subsurface, hein, pour les données sismiques qui n'ont pas accès à cette résolution, pour avoir tous les faciès, les lithologies et les propriétés pétrophysiques de ces prismes. Parce qu'en termes de pétrophysique, le prisme, même si ce sont des calcaires bioclastiques dans les deux cas, les propriétés pétrophysiques des prismes progradants ne sont pas les mêmes que celles des prismes rétrogradants. D'accord ? Ici, c'est beaucoup plus trié, beaucoup plus poreux et perméable. Ici, on a déjà, dans la phase rétrogradante, on a déjà des mélanges d'argile, des boues carbonatées. Donc, les propriétés pétrophysiques qui intéressent les industries pétrolières, par exemple, sont altérées dans ces prismes. D'accord ? Donc, ça vous permet de cibler les explorations. D'accord ? Et puis, deuxième intérêt, c'est que quand vous êtes à l'affleurement, vous avez accès, enfin, pas partout, mais pour l'essentiel, aux cailloux. Donc, vous pouvez trouver des fossiles. Donc, vous pouvez dater directement ces phases de progradation et de rétrogradation. Donc, caler les chartes de variation du niveau marin relatif. D'accord ? Alors, il y a d'autres exemples, hein, c'est juste pour vous, c'est récréatif, si j'ose dire. Donc, vous avez vu, ici vous avez une dimension, hein, 500 mètres. Donc, nous sommes sur une plateforme carbonatée du Miocène dans les chaînes du Taurus, en Turquie. Donc, ici, c'est le profil brut. Ça, c'est le haut de la plateforme. Ça, c'est le bassin. Et donc, vous voyez en surligné un certain nombre donc de lignes temps, avec ici une ligne temps qui va s'arrêter, une autre, et là le rebord de la plateforme, d'accord, avec un prisme de bas niveau et puis des strates qui remontent et reprogradent. Donc là aussi, même genre d'exercice, progradation, chute du niveau marin relatif et remontée du niveau marin relatif. Mais vous voyez, il existe, concernant les plateformes carbonatées, dans le monde, 4 ou 5 sites qui permettent des observations d'une telle ampleur. D'accord ? Sinon, vous savez, en général, les roches affleurent dans les chaînes de montagne, donc c'est déformé, c'est cassé, ou alors c'est couvert par des éboulis, par de la végétation. Donc, il existe environ, oui, 4 ou 5 sites où vous pouvez suivre comme ça, pas à pas, et marcher sur les anciennes surfaces et sur les anciens profils de dépôt dans le monde. D'accord ? Mais ces exemples sont très, très précieux pour caler toutes les images sismiques, en quelque sorte, parce que ça fournit d'excellents analogues, une fois qu'on a fait le transfert d'échelle. Alors, voici un autre prisme. Je vais vous montrer directement l'interprétation, parce que sinon, ce ne sera pas visible. Hein. Donc, vous voyez ici, toujours des pentes de l'ordre de 15 degrés, le haut de la plateforme, le bas, avec un prisme d'abord les strates progradantes. Ici, vous voyez les relations de top-lap. Et puis ici, un prisme de bas niveau qui se colle au coin, en quelque sorte, sur le rebord externe du talus. Et puis, dans la dernière phase, les strates là, qui ont tendance à re-enlapper sur la droite et à remonter et à ré-inonder, ré-ennoyer la plateforme. D'accord ? Avec, là aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que les associations, par exemple, de foraminifères, hein, du Miocène, ne sont pas du tout les mêmes, pourtant dans des positions a priori paléogéographiques similaires, ne sont pas du tout les mêmes dans les phases régressives que dans les phases transgressives. D'accord ? Donc, il y a en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement, un contrôle stratigraphique sur la distribution des faunes, ce qui peut paraître paradoxal. Et des écosystèmes. Hein, les écosystèmes transgressifs, c'est-à-dire les associations, par exemple, de foraminifères ici, ne sont pas du tout les mêmes que ceux des systèmes régressifs. Bon. Il y a 1h10 que je parle. On avait dit que je parlerais deux fois 1h15 et que vous poseriez des questions. Donc, est-ce qu'on se ménage un quart d'heure pour des questions, ou vous voulez que je reste à un point méthodologique?
topographie, c'est à votre... Je continue et vous m'interrompez. Comme ça. Donc si vous avez du courage encore.
Donc le troisième volet et approche méthodologique concerne les corrélations stratigraphiques de subsurface, les corrélations dites diagraphiques. Alors, donc ce que l'on enregistre dans les forages, hein, qui, ne l'oublions pas, est la source essentielle de données stratigraphiques. Les affleurements constituent des excellents moyens pour caler et pour calibrer les informations de subsurface. Mais l'accès aux informations de surface et d'affleurement sont en général insuffisantes pour reconstruire ce que je vais vous montrer par la suite. D'accord ? Donc ici, nous sommes sur à l'extrémité est de la plaque arabe, au sultanat d'Oman, où des fenêtres au travers des nappes ophiolitiques montrent une plateforme carbonatée du Jurassique et Crétacé. Donc il existe un endroit, un anticlinal, sur un diapire qui fait ressortir toute la série stratigraphique et qui permet donc de procéder à une analyse sédimentologique relativement fine, hein, avec des faciès de sable fluviatile, des faciès de marginaux littoraux, hein, ou de plaines côtières, et puis qui passent vers le haut, ici dans les assises jurassiques, à des faciès de plateformes carbonatées. D'accord, je ne veux pas vous décrire dans le détail, hein, c'est le principe qu'il faudra retenir. Donc, au travers l'enchaînement et l'empilement vertical des faciès, on peut, et selon leur proximalité ou leur distalité, on peut reconstruire des cycles élémentaires de variation du niveau marin relatif local. Les triangles verts, la pointe en haut, ça marque les phases d'augmentation du niveau marin, ou les phases de transgression. Et à contrario, les cônes rouges pointe en bas marquent les phases donc de régression. D'accord ? Donc on définit un certain nombre de cycles. D'accord ? Donc ces cycles sont définis, sont limités par des surfaces remarquables, hein, qui sont des surfaces de minimum d'eau et des surfaces de maximum d'eau, donc des limites de séquence et des surfaces d'inondation maximales. D'accord ? Donc ça, c'est un travail direct. On peut, par des informations biostratigraphiques également, dater ces surfaces remarquables. Donc, ensuite, la procédure technique consiste à calibrer, à corréler ces informations complètes d'affleurement avec une information de forage. Donc, une information de forage, vous n'avez pas... Bon, il y a bien quelques carottes, ça et là, sur lesquelles vous pouvez faire un travail sédimentologique, mais en général, vous avez une information de type diagraphique. C'est-à-dire, les diagraphies sont des sondes qui sont descendues dans les trous de forage et qui vont enregistrer en continu ou en subcontinu des paramètres pétrophysiques des roches. Alors, de manière classique, ici en rouge, vous avez par exemple une courbe gamma-ray, hein, qui est une courbe qui enregistre la radioactivité naturelle des roches. Donc, par exemple, les niveaux argileux vont avoir puisqu'ils contiennent du potassium, du thorium et de l'uranium, vont avoir des signatures avec des déflexions vers des fortes valeurs de gamma-ray. Un autre outil classiquement enregistré, c'est le DT, donc c'est les vitesses de propagation des ondes acoustiques à travers les roches. Cet outil est particulièrement important, enfin cette mesure est particulièrement importante, parce qu'elle permet ensuite de recaler les données sismiques, les profils sismiques, et de convertir les informations temps en informations profondeur. D'accord ? Puisque vous avez une mesure directe de la vitesse de propagation des ondes P dans les roches donc, qui sont investiguées par la sismique. D'accord ? Et puis sur la droite, vous avez en rouge donc un robé, c'est-à-dire c'est une mesure de la densité directe des roches, hein, vous voyez, entre 2 et 3 pour simplifier. Et puis la courbe en bleu, le CNL, c'est une diagraphie nucléaire qui est donc sensible à la présence d'hydrogène dans les roches, donc d'eau. Hein, donc il mesure en fait la teneur en eau, donc la porosité des roches. D'accord ? Donc ça, ce sont des informations. L'intérêt de ces informations, c'est qu'elles sont continues. D'accord ? Il peut y avoir des failles, mais il n'y a pas de recouvrement. En revanche, ce sont des informations lithologiques. D'accord ? Donc une argile, vous ne pouvez pas savoir... Vous ne pouvez pas savoir si c'est une argile marine de grand fond ou une argile de plaine côtière ou de plaine alluviale, fluviatile. D'accord ? Et en particulier, là, l'exemple est frappant. Ici, vous avez vous avez des forts gammarets ici qui sont associés à des argiles de plaine d'inondation, c'est-à-dire que ce sont des argiles continentales, en quelque sorte. D'accord ? Donc, c'est pour ça que vous êtes contraint de caler les signatures diagraphiques remarquables que vous avez avec les surfaces stratigraphiques remarquables que vous avez identifiées. D'accord ? Donc vous allez dire ici ce maximum là qui est important pour moi, je le retrouve sous cette forme de signature où là il y a une signature légèrement argileuse et puis là un niveau à forte densité, etc. Bon, à la limite vous ne savez pas pourquoi ce niveau a cette signature diagraphique, mais vous l'identifiez en tant que marqueur diagraphique. Et c'est ce motif diagraphique et ces signatures diagraphiques, hein, puisqu'elles sont identifiées en termes de surface stratigraphique, que vous allez essayer de corréler de proche en proche sur des distances qui vont varier. Alors, c'est ce... il n'y a pas... Donc, c'est ce qui est réalisé ici, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'était le point de calage. Vous voyez, ici. Et vous avez, vous voyez l'échelle, hein, 200 km. Vous pouvez aller jusqu'aux confins de l'Arabie saoudite, où il y a une structure pétrolière, et les numéros correspondent à des puits qui sont plus ou moins régulièrement disposés, mais qui sont situés à une distance d'une dizaine de kilomètres les uns des autres. Et vous avez comme ça une série donc, de puits, et vous donc reconstruisez un transect ou une coupe stratigraphique en corrélant les puits de proche en proche. Alors qu'est-ce que ça veut dire corréler ? Eh bien, votre signature diagraphique remarquable, calibrée sur le terrain avec une surface d'inondation, vous allez essayer de la suivre de proche en proche. Et vous utiliserez cette surface d'inondation ensuite comme un marqueur stratigraphique. Hein, donc cette surface, elle est ici en l'occurrence, et elle va plonger, grosso modo, elle va plonger ici. Et vous pouvez reconstruire, comme ceci, de proche en proche, une géométrie qui est à l'échelle, cette fois-ci, sismique. C'est-à-dire là, vous faites la démarche inverse. Hein, d'une approche par le petit, en quelque sorte, par les séquences élémentaires, vous allez être capable de reconstruire une image qui est à l'échelle de la stratigraphie sismique. Donc, vous allez faire apparaître un certain nombre de troncatures stratigraphiques typiques de celles que l'on peut observer sur des profils sismiques. Alors, par exemple, ici, vous voyez qu'un certain nombre de surfaces d'inondation, comme celle-ci, là, vous voyez, elles sont suivies, et là, elles s'arrêtent. Il y en a un autre exemple, ici. Donc, toutes ces surfaces sont, en fait, tronquées par une énorme surface d'érosion, hein, qui correspond à une émersion pendant le Jurassique supérieur de toute la région, et qui conduit donc à la troncature et à l'érosion des couches sous-jacentes. Vous voyez que plus vous allez vers l'est du pays, plus cette érosion est importante. D'accord ? Donc ça implique que géodynamiquement, le bord de la plateforme se soulevait activement et était tronqué au fur et à mesure de son exposition. D'accord ? Et ensuite, au-dessus, vous avez un motif différent. Avec, au Jurassique supérieur, par exemple, ici, vous avez des lignes qui viennent recouvrir progressivement l'ancienne surface, c'est-à-dire à nouveau un prisme d'aggradation côtière avec une rétrogradation à nouveau de la mer sur la plateforme qui était préalablement exposée et érodée. Voilà. Donc là, vous avez une vue reconstruite à l'échelle sismique qui vous permet, entre autres, d'aborder... considérant donc cette échelle, d'aborder des questions de géodynamique à l'échelle des plaques lithosphériques ou des bordures de plateforme. Alors, je peux vous montrer un autre. Je vais m'arrêter là. Mettre fin. Je mets favori. Alors, pour se rapprocher de nos contrées, c'est très austère. Donc voilà, sur la gauche est un puits, Coulomb 001, qui traverse toute la plateforme carbonatée du Jurassique moyen et qui a la particularité et le mérite d'être entièrement carotté, ce qui est exceptionnel. C'est le puits de la première découverte d'hydrocarbures dans le bassin de Paris en 1958, Coulomb, qui continue de produire. D'accord ? Donc à partir de ce puits, on a été capable de faire une analyse sédimentologique, donc de reconstruire, vous voyez, un certain nombre de variations élémentaires du niveau de la mer, qui ont été calées avec un jeu de diagraphie, pas sur le même puits, parce qu'il est trop vieux, mais dans un puits qui est très très voisin, à 2 km. Et à partir de là, on a pu définir un certain nombre de surfaces stratigraphiques remarquables, qui sont, dans les plateformes carbonatées, les surfaces stratigraphiques remarquables que l'on peut identifier, ce sont les surfaces d'inondation. Ça correspond à des niveaux argileux, ça correspond à des niveaux riches en fossiles. Donc ce sont ces surfaces que l'on peut caractériser facilement, en particulier à la fois sédimentologiquement et qui ont des réponses diagraphiques caractéristiques. Si vous êtes dans un autre environnement, vous allez utiliser un autre marqueur, les limites de séquence par exemple, si vous êtes dans un environnement plus continentaux. Toujours est-il que sur cette plateforme carbonatée, on a identifié, ils sont dénombrés, pour tout le Jurassique moyen, une trentaine d'inondations localisées sur ce secteur. Ensuite, la procédure est toujours la même. Vous voyez le nombre de les 30 marqueurs d'inondations qu'on essaye de corréler de proche en proche. Alors ici, vous ne lisez pas, mais il y a environ 80 km entre ces deux puits et puis une trentaine de puits intermédiaires. Et ici, là, jusque dans le sud de Paris, vous voyez ce qui est intéressant, a priori, c'est que parmi les inondations qui ont été sélectionnées à un endroit donné, d'accord, qui ont été identifiées et sélectionnées à un endroit donné, quand vous essayez de les corréler de proche en proche, il va apparaître deux phénomènes. Le premier, c'est la disparition de certains marqueurs, c'est-à-dire des inondations qui étaient localisées à certains endroits ne remonteront pas et ne passeront pas dans certains secteurs de la plateforme. Et au contraire, vont apparaître un certain nombre de nouvelles inondations latéralement. D'accord ? Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont pointées, comme celle-ci ? Donc, in fine, ce que l'on conserve si on veut travailler à l'échelle du bassin, ce sont les marqueurs et les inondations qui, physiquement, franchissent tous les seuils et peuvent être physiquement suivis à l'échelle du bassin. D'accord ? Alors, on peut suivre ces marqueurs de proche en proche jusque dans les zones d'affleurement où ici, on dispose de fossiles et on peut dater tous ces événements d'inondation. Voilà, donc simplement pour arriver à des profils que je peux vous montrer, parce que ce sont des lithologies qui vous sont familières. Donc voilà une coupe reconstruite de la plateforme carbonatée du Jurassique moyen du bassin de Paris, avec des faciès ici en jaune qui sont les faciès dits de l'eau lite blanche, et des faciès en vert qui sont appelés les faciès du Comblanchien. Et toutes les lignes noires sont les lignes stratigraphiques des inondations qui ponctuent la vie de cette plateforme, d'accord, et qui sont des lignes temps qui traversent. Donc vous voyez que ce schéma de corrélation de proche en proche met à mal, en quelque sorte, l'image de l'atoll et du bol sédimentaires qu'on pouvait avoir du bassin de Paris, hein, puisque l'image classique était que les zoolithes constituaient les franges d'un atoll et que les faciès comblanchiens, qui sont des faciès littoraux et marginaux, étaient le remplissage interne. On voit qu'à certains moments, il n'y a plus de barrière littorale, d'accord, et qu'il y a des moments où les zoolithes dominent et d'autres moments où les platiers marginaux littoraux dominent. D'accord. Donc là, on a une image reconstruite et objective. Hein, ce n'est plus un modèle actuel que l'on transpose à une plateforme ancienne. C'est une plateforme ancienne qui est découpée, d'accord, avec des lignes temps et pour lequel on dispose désormais d'une évolution paléogéographique millions d'années par millions d'années, au travers donc plusieurs dizaines de millions d'années. Donc on voit toutes les variations latérales de faciès et toutes les relations entre les grands ensembles lithologiques. Ici, vous voyez apparaître le sillon de la Loire. Donc on peut voir aussi le contrôle sain sédimentaire de certaines failles et le jeu en uplift, le jeu en remontée de certains seuils, hein, ici le seuil de Vienne Chamagneux, par exemple, donc qui existait, dont l'histoire existait déjà au Jurassique. Voilà. Donc ça nous donne des informations également à l'échelle donc des plaques, donc à l'échelle géodynamique sur l'histoire des secteurs.